When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Greg, on va parler du match de jeudi qui a eu lieu donc entre les Dolphins et les Bengals. Le match a donné un 27-15 pour Cincinnati. C'est évidemment alors c'est pas l'essentiel, justement, c'est bien là le problème de ce match.
C'est presque anecdotique.
C'est ça, ça a donné donc ce que je voulais dire, c'est que Cincinnati équilibre son bilan. C'est un peu la nouvelle de la chose. Les Dolphins perdent leur premier match. Ils étaient à 3-0, ça fait 3-1. Mais évidemment, ce qui reste de ce match, 3 jours après ou 4 jours après, c'est l'affaire Tagovailoa. Tagovailoa sort sur une commotion cérébrale dans le deuxième carton. Son équipe perd après, il ne marque plus qu'un touchdown et 3 points, je crois, derrière, donc il marque une dizaine de points sans lui, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un communiqué de la Ligue, puisqu'il faut rappeler le contexte, tu as Tagovailoa, dimanche dernier, avait joué contre les Bills, semblait avoir une commotion cérébrale, puisqu'il s'était relevé en titubant après un choc, il était tombé par terre, il avait été examiné à la mi-temps, il était revenu en jeu et fini le match contre les Bills. Donc bon, déjà, petit début de polémique, est-ce qu'il avait vraiment eu une commotion, pas une commotion? L'équipe avait d'abord annoncé une blessure à la tête avant de dire que c'était une blessure au dos. Lui dit que c'est une blessure au dos. Bon. Mais les choses font que là, il se fait prendre sur un sac où il a la tête qui tape en arrière. Il a une vraie commotion cérébrale, il reste KO, il est figé. On voit sur le plan, il a les doigts complètement... complètement bloqué.
Figé, paralysé.
C'est
ouais.
Un peu, sur le coup, je croyais qu'il disait juste West Coast, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Non, j'essaie d'être optimiste. Il faut faire de l'humour, des fois, même quand le thème est grave. Donc, on se retrouve avec une enquête en cours, une enquête de la NFL, une enquête du syndicat des joueurs, et le neurologue indépendant du premier match, celui des Bills, pas celui des Bengals, qui a été viré parce qu'il aurait fait des erreurs dans l'appréciation. Ce qui semble du coup déjà être plus ou moins un aveu qu'il avait une commotion la première fois.
Déjà, ouais.
C'est voilà. Est-ce qu'il faut trouver un coupable nécessairement, en fait? Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que je sais finalement pas trop quoi dire là-dessus.
Bah, en fait, le problème est tellement grave, je dirais, que malheureusement, on va pas pouvoir y couper. C'est un problème. C'est toujours la même situation, c'est-à-dire que c'est une problématique où on dit on prend le problème à bras le corps et puis finalement on se rend compte que derrière il y a encore des écarts et puis voilà, ça fait toujours un petit peu ce yo-yo entre vous inquiétez pas, on renforce la sécurité, mais de l'autre on ressent pas spécialement les effets ou en tout cas les failles sont exposées de manière un peu gigantesque et là malheureusement on parle quand même, heureusement, toi, Tagovailoa est rentré chez lui et a l'air de se porter un minimum correctement, enfin, comme on pourrait se sentir, en tout cas, 3 jours après un traumatisme de ce genre. Mais on est quand même passé à côté de la mort d'un joueur sur un terrain, malgré tout. Donc, c'est difficile d'occulter le fait que, malheureusement, il faut aussi trouver un bouc émissaire, on va dire. Un ou plusieurs, parce que ça, c'est aussi ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui, c'est que on tape un petit peu sur le fameux consultant, mais y a aussi beaucoup de problématiques derrière tout ça. C'est la procédure basique qui est mise en place dans ce genre de situation. Et c'est ce que je disais, on se rend compte qu'il y a des failles assez béantes par rapport à ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, malheureusement, c'est nécessaire. Mais j'ose espérer que ça ne va pas s'arrêter là, en l'occurrence, ce licenciement de ce fameux chirurgien indépendant.
Disons que si je suis un peu, je sais pas si c'est cynique, hein, excusez-moi, mais je me dis que de toute façon, il y a quand on fait des erreurs qu'on apprend et qu'on fait avancer les choses. Non mais c'est vrai, quand tout va
C'est une
bien.
façon de voir les choses,
Mais
ouais.
oui, non mais, tu vois, là on dit ça va, il y a des choses qui vont peut-être changer. C'est-à-dire que là, il y a un premier communiqué de la Ligue qui est sorti disant on va discuter de la notion de déséquilibre moteur, je sais plus quel est le terme exact qui implique pour plus ou moins dire. Ce qu'il laisse entendre, c'est qu'en gros, dès qu'un joueur se cassera la tronche comme il l'a fait contre les Bills, il pourrait ne plus re-rentrer. Pour l'instant, c'est pas acté, mais c'est une des pistes de discussion. C'est de dire si un mec montre un déséquilibre moteur dans un match, c'est fini.
Non mais alors, déjà juste pour compléter là-dessus, donc le processus qui a été expliqué manifestement, enfin j'essaie de faire ça dans les grandes lignes, c'est visiblement on pose une série de questions au joueur qui vient d'être atteint d'une commotion, et si les réponses sont plus ou moins cohérentes dans la foulée, on peut l'autoriser à jouer. Déjà, je serais curieux de connaître les questions, parce que si c'est des questions made in combine, ça va pas être difficile de
Ah,
revenir sur le terrain. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des, comment on appelle ça, des espèces d'arrangements pour que les questions soient pas non plus trop compliquées, comme ça, s'il y a besoin, le joueur peut revenir.
en
Mais
vrai.
c'est vrai que déjà, rien que ça, tu dis que voilà, ça paraît quand même assez soudain, presque assez abrupt, le fait de dire bah tu réponds à quelques questions. Je connais pas le nombre de questions en l'occurrence, mais du coup, allez, vas-y, tu peux retourner, quoi.
Après, est-ce que les questions, c'est vraiment autre chose que quel jour on est,
Oui,
où est-ce
comment
qu'on
tu
est,
t'appelles?
comment tu t'appelles, quoi? Non, mais c'est vrai, je
Oui.
pense que.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Après, il y a Dark Threedor sur le chat qui le dit bien. Les joueurs qui veulent jouer, bah, c'est compliqué pour l'équipe de lui dire non. Le truc, c'est que c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire il faut qu'on ait un bouc émissaire. C'est-à-dire que le joueur peut mentir, l'équipe peut faire semblant de voir que le joueur n'a pas menti ou peut croire le joueur de bonne foi, le médecin peut se faire berner ou. Enfin. C'est très large et je sais que je vois bien dans le chat que vous dites oui, mais il faut pas jouer avec sa vie pour des millions, etc. Mais il y a des mecs comme ça qui disent je vais rentrer, je vais jouer quoi qu'il arrive parce qu'ils ont été élevés comme ça ou qu'ils sont dans cette ambiance-là et qu'on leur a toujours dit faut être le plus fort et puis si tu sors, il y a un mec qui va prendre ta place. Donc le joueur, il a peut-être une part, le coach, il a peut-être une part, l'équipe a peut-être une part, etc. C'est pas évident quoi.
Moi là-dessus, sur la responsabilité de Tagovailoa, enfin, puisqu'elle a été quand même évoquée par certains, moi encore une fois, tu l'as bien précisé Alain, c'est des joueurs à qui on met une pression excessive depuis qu'ils sont mômes, depuis qu'ils jouent, enfin la plupart depuis qu'ils ont 5-6 ans et qu'ils jouent en Pee-wee football américain. Je veux dire, les mecs, dès le début, tu as les parents qui sont au taquet, et visiblement le père Tagovailoa, il a l'air quand même de mettre un minimum de pression sur son fils. Je le précisais ça sur le chat interne du site, mais on rappelle quand même que le début de carrière NFL de Tagovailoa a quand même pas été parfait. Il y a un début de saison où tout se passe sous les meilleurs auspices, etc. Et il y a ce coup d'arrêt là où du coup, bah, Tagovailoa risque éventuellement de ne pas jouer, de perdre sa forme du moment, etc., etc. Donc, se dire que dans la tête du joueur, il y a ce discernement, alors qu'on lui dit: Oh ben non, t'es apte à jouer. Enfin, de toute façon, lui, de son propre aveu, il voudra toujours jouer. Et j'ai pas entendu un seul joueur NFL, même je
Exactement.
crois que c'est Rob Ninkovich qui a parlé là-dessus sur, je sais plus si c'est sur ESPN ou une autre chaîne, qui lui justement a arrêté sa carrière pour des problèmes justement de neurologiques, on va dire. Voilà. Même lui disait que de toute façon, voilà, c'est il n'y a pas un joueur qui va dire qu'il ne va pas vouloir jouer. Pour terminer juste sur mon propos par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je dis que c'est un peu facile de chercher un seul bouc émissaire dans cette histoire, c'est que déjà j'aimerais bien comprendre le rôle de ce neurologiste indépendant. Parce que du coup, c'est pareil, on emploie beaucoup le terme de consultant depuis quelques heures, enfin depuis le licenciement proposé par la NFLPA, le syndicat des joueurs, pardon. Mais alors du coup, c'est ça la question qui me pose, c'est là où ça me pose question. C'est-à-dire que du coup, on le consulte ou c'est lui qui prend
Oui,
décision
oui.
pour par exemple les médecins des Dolphins? Parce que moi, cette situation, elle m'amuse un peu, parce que qui est une personne indépendante nommée par la NFL et le syndicat des joueurs pour justement dire bah voilà, on fait ça en toute transparence, c'est pas nous qui influençons telle ou telle décision, d'accord? Mais les Dolphins, ils ont leur mot à dire in fine. C'est pas parce que une personne indépendante va donner son point de vue et rendre un rapport que eux derrière ils peuvent pas tirer des conclusions et dire au coaching staff: Bah écoutez, nous, ok, on nous donne le feu vert, mais ça me paraît quand même un peu chaud de le faire jouer,
Alors,
quoi.
c'est une des trucs que devrait éclaircir l'enquête, parce que depuis des années, et la mise en place de ce fameux consultant indépendant, ou neurologue indépendant comme présenté avant, pour moi en tout cas, il était entendu que c'était lui qui avait le final cut puisqu'il était indépendant et qu'on devait lui faire confiance. Et il disait, si le mec est pas apte, c'est pas apte. C'est une sorte de garde-fou mis en place. On nous avait présenté ça comme un truc vraiment. Donc après, comme tu dis, si maintenant on nous le présente comme un consultant et qu'on dit non, mais en fait, c'est l'équipe qui avait le dernier mot. Ouais, là, ça devient problématique. Et en effet, il va falloir modifier ça. Parce que clairement, là, tu remets le poids du choix sur l'équipe. Et l'équipe, elle a envie de voir jouer son quarterback titulaire, in fine.
Et oui, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai pas vu de décision prise par les Dolphins parce que je suis désolé. Enfin, j'ai rien contre Mike McDaniel, l'homme. Mais je trouve ça un peu facile d'arriver en conférence de presse avec des trémolos dans la voix en disant, ah ouais, c'est vrai que c'est jamais facile de voir son quarterback sortir sur une civière. Il y a manifestement une enquête qui a été menée depuis lundi dernier, puisque visiblement ce neurologue, non pas neurologiste comme je disais tout à l'heure, avait déjà été interrogé en début de semaine, et apparemment, alors, on n'est pas au milieu du truc, mais visiblement c'est ses réactions aussi qui auraient conduit le syndicat des joueurs à se dire, bon bah finalement c'est peut-être pas voilà, il a peut-être pas fait ça très très proprement, etc., etc. Mais voilà, je veux dire, les actions parlent plus que les mots. Donc, Mike McDaniel peut faire des déclarations d'amour à Tua Tagovailoa en disant c'est jamais facile, etc., etc. In fine, ça aussi, je reprends des propos de Ninkovic. Dans 20 ans, Mike McDaniel appellera pas Tagovailoa s'il est en fauteuil roulant chez lui au milieu de sa famille. Donc, à un moment donné, faut prendre des décisions. Et au bout d'une semaine, du côté de Miami, j'en vois pas. Donc, pour une franchise qui était déjà un peu dans la tourmente, je trouve, pendant l'intersaison avec les fameuses histoires et la suspension de Stephen Ross, je trouve que ça aurait été bien de montrer un peu patte blanche et de sortir un peu grandi de ce truc-là. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas de décision flagrante. Mais bon, il reste encore un peu de temps. On va leur laisser le bénéfice du doute du côté de la Floride.
T'as déjà vu une équipe NFL sortir grandi de quoi que ce soit ?
Bah là, en tout cas, manifestement, ce ne sera pas le cas. Pourtant, normalement, Stephen Ross, c'est pas encore dans les murs.
C'est très.
Mais son influence est encore là.
Malheureusement, hein. Je fais un aparté. Les Saints sont marqués avec un touchdown au sol de Taysom Hill et passent devant 22-19 avec, évidemment, comme grand objectif de foutre en l'air mon combiné. pour bien débuter le dimanche. Non, mais oui. De toute façon, fatalement, encore une fois, moi, les équipes NFL, leur business, c'est pas de sortir de grandir de quoi que ce soit, c'est de gagner à chaque fois. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai du mal. Tu vois, moi, j'ai pas envie de pousser des cris d'orfraie en disant, mon Dieu, c'est un scandale, etc., machin. Je sais pas, alors peut-être que je réfléchis trop, mais je me dis qu'il faut pas non plus être hypocrite. Si j'avais pour première préoccupation dans ma vie la santé et le bien-être de ces gars-là, je regarderais pas du tout ce sport-là, en fait, parce qu'on sait que de toute façon il y a un risque et qu'ils s'exposent, et voilà, j'essaie de pas me mentir à moi-même non plus, et je vais pas me mettre à hurler, oh mon Dieu, c'est la faute de l'équipe, c'est machin. C'est aussi parce qu'on les regarde qui sont là, sans se torturer ou se flageller, hein, mais ça fait aussi partie du risque, et je le disais, il faut en apprendre des choses. Après, cloué au pilori ou pas, c'est mettre des garde-fous parce que, comme tu le disais, les joueurs, ils diront jamais qu'ils sont out. Les coachs voudront toujours avoir leurs joueurs. Donc, il faut mettre des garde-fous et encore et encore et encore. Et quand même se rappeler un petit peu du chemin parcouru, parce que moi, je me rappelle quand même que quand on a commencé le site, grosso modo, tu vois, moi, je commence en 2007, 2008, on est encore à une époque où les mecs, ils se font éclater la tête par terre, ils sortent, on leur fait comme ça avec les doigts, ils disent, tu vois, deux doigts, c'est bon, et puis ils re-rentrent, et ils en reprennent une deuxième, une troisième, il y a quand même moins, on a vu les Guardian Cap, là, qui sont apparus aussi depuis un ou deux ans à l'entraînement, alors je sais que... Mais même ça, tu vois, il faut le forcer aux joueurs. Je sais pas si tu te rappelles les cases de protection là. C'était JJ Watt, si je dis pas de bêtises, cet été, ou un autre joueur qui disait ah oui, non, mais c'est nul les cases de protection à l'entraînement, etc. Il faut aller contre eux, il va falloir les faire chier, il va falloir faire chier les coachs, il va falloir faire chier tout le monde.
Mais si tu me permets ce parallèle, c'est un peu la même histoire qu'on avait en Formule 1 avec le Halo. On avait dit c'est moche, c'est de la merde, etc. Et puis on se rend compte que ça a malgré tout sauvé des vies. Donc là, c'est sûr que c'est plus sur du long terme. Encore que, je le rappelle, sur la situation de Tagovailoa. Mine de rien, deux commotions cérébrales en l'espace de 4 jours, on ne sait pas comment ça peut se passer. Hein, voilà. Mais oui, je te rejoins, faut changer un peu les mentalités, les faire évoluer. On sait que c'est des joueurs et des entourages, notamment, que ce soit au niveau des coachings et tout ça, qui ont grandi dans une certaine idée de ce qu'était le football américain. Maintenant, il faut aussi l'adapter au côté moderne des choses et beaucoup plus sûr. Et pour l'instant, on en est encore loin, malheureusement.
Donc, on verra dans les jours à venir. Évidemment, suivez bien sur le site ce qui sera mis en place. Clairement, ça va faire bouger des choses puisqu'il y a déjà eu un communiqué de la NFL pour des pistes. On disait, pour l'instant, c'est des pistes. Il n'y a rien d'acté. mais il pourrait y avoir des nouvelles mesures probablement dans les jours à venir. On va dire un petit mot du jeu quand même, Greg. Le positif pour les Bengals, notamment, qui équilibrent leur bilan, mine de rien, ils étaient à 0-2, ils sont à 2 victoires et 2 défaites maintenant. Un seul sac encaissé pour Joe Burrow face à une défense qui blitz beaucoup, 310 yards pour ses receveurs, ça c'est le positif quand même.
Oui, c'est ça. C'est au moins on arrive à trouver des clés au niveau de la ligne offensive. Il y avait eu quand même un petit peu de pression face aux Jets, mais moins de conséquences d'un point de vue du sac. Là, du côté de Miami, c'était globalement une prestation assez aboutie. Donc, si on note une progression dans ce secteur-là, c'est qu'au moins ça travaille en ce sens. Et tu le disais, en plus, l'avantage, c'est que même si on a eu un Jamar Chase qui était très très bien surveillé du côté de Miami, bah ça va être la recette du côté des Bengals. En tout cas, la chose qu'il va falloir retenir, c'est que on a malgré tout deux receveurs, voire un tight end qui sont capables de se démarquer quand c'est nécessaire. Un T. Higgins qui a été extrêmement précieux sur jeu vertical, un Hayden Hurst qui a effectué des jeux décisifs, dont un touchdown, je crois le dernier des Bengals si je me trompe pas. Donc voilà, globalement si ça fonctionne, même si le jeu au sol reste encore perfectible, mais Joe Mixon revenait il me semble. Donc même si le jeu au sol reste perfectible, voilà, c'est l'attaque des Bengals globalement qu'on veut voir, ou en tout cas c'est le maximum d'ingrédients qui peut permettre à Cincinnati de retrouver les playoffs cette saison.
Je sais pas si Mixon revenait, tu me mets un doute.
Il me semble qu'il était absent la semaine dernière, non?
Attends, je vais vérifier en même temps, mais non, il a joué.
Ah, il a joué, d'accord. Ouais, il a joué. J'étais persuadé qu'il était sorti, il avait fini le match, maintenant pour moi.
Il a joué les 4 matchs. Après, c'est le point noir. Moi, je l'ai donné le positif pour commencer. Clairement, Joe Burrow a dit lui-même qu'il était très content de la gestion de la ligne pendant tout le match, de la pression, etc. Donc ça, évidemment, c'est du bon. Les points négatifs pour moi, ce jeu au sol qui est en effet vraiment en galère depuis le début de la saison, là on est encore à 2,2 yards par course, donc c'est très compliqué. Et je ne sais pas si c'est une conséquence de l'irrégularité du jeu au sol, mais du coup l'irrégularité de l'attaque au global, parce que ça vit quand même encore par coup d'éclat, quoi. C'est l'impression que j'ai eue.
Oui, après, voilà, l'année dernière, il ne faut pas oublier aussi que... Bon. Les Bengals, ils roulent pas sur tout le monde. C'est vrai que c'était assez inconstant au fil des semaines. Et c'est vrai que il y a cet avantage et ce côté très intéressant avec Cincinnati, c'est qu'on peut avoir une attaque extrêmement spectaculaire. Mais c'est vrai que le rythme des fois en pâtit. Donc je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il va falloir être un peu plus aiguisé, on va dire, sur l'ensemble d'un match et pas uniquement par séquence, voire par semaine. Donc ça va être à bonifier, surtout dans une AFC Nord où on voit que, mine de rien, les confrontations directes vont être assez disputées. On l'a vu en première semaine face aux Steelers.
Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour Miami, du coup? Parce que tu finis, pas deux tiers, mais on va dire un peu plus de la moitié de la rencontre avec Teddy Bridgewater, qui fait du Teddy Bridgewater, c'est-à-dire qu'il lance pour quasiment 200 yards, un touchdown, une interception, il est moyen, c'est Teddy Bridgewater.
Surtout, ce qui est inquiétant, si tu me permets, c'est qu'a priori, on a quand même eu confirmation que Tagovailoa était confirmé titulaire à la dernière minute, donc j'ose espérer quand même, même s'il n'y a que 4 jours de préparation, que Bridgewater a quand même été un peu mis en condition à l'orée de ce match. Donc c'est vrai que là, oui, en effet, c'est un peu... C'est globalement décevant, mais après, voilà, qu'il y ait une différence intrinsèque globalement entre Tagovailoa et Bridgewater, c'est pas une énorme surprise. On voit malgré tout que Tyreek Hill, ça fait énormément de bien. Les Bengals ont réussi à contenir Jalen Waddle pour limiter l'impact du jeu aérien, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle globalement. En tout cas, ça a permis de faire le boulot au-delà de la sortie du quarterback titulaire. Donc voilà, mais c'est pareil, Miami, je pense que les ingrédients, notamment offensivement, vont être souvent les mêmes. Ça va être souvent du jeu extrêmement explosif avec notamment les deux mobilettes extérieures. Et là, en l'occurrence, à partir du moment où à la transmission, il y a un absent notable et où il y en a un des deux qui est assez bien muselé, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, après, défensivement, oui, ça a quand même beaucoup souffert. Le backfield qui est un des meilleurs, enfin en tout cas un des plus réputés, notamment avec des profils comme Xavier Howard et Javon Holland, ça a quand même beaucoup souffert, je le disais, notamment sur le jeu profond. Pas beaucoup de pression, donc voilà. Enfin, je pense que globalement, c'était un match sans pour Miami, malheureusement. Ils sont capables de faire bien mieux, ils l'ont déjà démontré. Donc voilà, il faut voir comment ils réagissent. Je crois que leur prochain match est face aux Jets. Donc il y a quand même malgré tout l'opportunité de se remettre dans le bon sens, mais encore une fois, il va falloir suivre l'évolution de cette situation parce que je ne sais pas trop en interne comment ce petit traumatisme, on va dire, autour de la situation de Tagovailoa a été digéré, sans vouloir faire un peu la drama queen.
Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears à suivre. Donc il y a de quoi se relever, notamment si tu as Tagovailoa revient. Je te remercie beaucoup, Grégory.
Avec plaisir.
Eh bien, on se retrouve très bientôt dans le podcast. Non, t'as une bye week, toi.
Oui, j'ai une bye week.
Tu as une bye week, donc on se
retrouve. Normalement, on se retrouvera la semaine suivante, la semaine du 10.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup à toi, Grégory. En tout cas, profite bien du soleil normand qui se couche sur ton doux visage par le côté gauche. Là, je le vois sur l'image. C'est magnifique. Merci beaucoup, Greg.
Bonne soirée à tous.
À bientôt. Bonne soirée.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.